grand match. Voici François Paquette.
Mon cher François, je suis sincèrement désolé de vous déranger pendant que vous regardez un match de baseball.
C'est agréable, par exemple, du baseball de série sur l'heure du souper. J'aime bien ça. J'aime bien ça.
C'est surtout une excellente idée de ne pas mettre les matchs en même temps.
Oui, c'est vrai.
Et ça, la Ligue nationale, je recommence. Le baseball majeur le fait bien. Quand on a, parce qu'il y a des séquences, c'est-tu il y a 10 jours ou 2 semaines où on avait 4 matchs un certain vendredi, ben il y avait des matchs, je pense, de 1 heure l'après-midi jusqu'à, je pense, 20h ou 21h le dernier. Le baseball majeur s'arrange pour pas que les matchs se jouent en même temps souvent, hein?
Oui, c'est ça. Le seul problème qu'on a, c'est que souvent les matchs s'étirent un petit peu trop, puis il y a beaucoup de matchs qui ont dépassé les 3h30, 4h dans les séries. Fait que tu sais, tu avais un match disons à 1h, puis l'autre à 16h, ben les 2 dernières manches, ça pouvait arriver qu'on empiétait sur le début du match suivant.
Ouais.
Mais ça, on n'a pas le choix, Dan, parce qu'on peut pas commencer à 10h le matin, puis on a parlé de toutes sortes de façons de tenter d'accélérer les matchs. Je pense qu'on a fait certaines choses qui ont fonctionné durant la saison régulière, mais quand les séries commencent, tu vois que les mauvaises manies reviennent et avec comme résultat des fois que les matchs sont un petit peu longs. Là, surtout pour les gens qui travaillent là, puis qui écoutent les matchs de soirée qui commencent à 8h puis qui se terminent à minuit, minuit et demi, ça c'est un petit peu moins agréable, mais jusqu'ici le spectacle est de très bonne qualité.
François, dans les dernières années, les partisans des Red Sox ont été gâtés. Là, ça a été Terry Francona, le gérant. Puis dans les dernières années, c'était John Gibbons.
John Farrell.
Gibbons, c'est Toronto.
Oui.
John Farrell, je mélange tout le temps leur nom de famille. John Farrell, je trouvais que c'était un monsieur qui avait l'air crédible. Terry Francona, la même affaire. Mais je suis sincèrement impressionné par Alex Cora. Il a 42 ans. Il était l'adjoint à Houston l'année dernière. C'est un gars qui a joué dans les ligues majeures. Et quand je le regarde à la télé, il n'est pas obligé de donner un coup de pied sur une poubelle. C'est le genre d'entraîneur pour lequel j'aurais le goût de me défoncer.
Oui, puis je pense que c'est un peu la nouvelle génération. En fait, les entraîneurs qui sont dans la quarantaine, qui n'ont pas pris leur retraite depuis très, très longtemps, qui sont encore, je pense, très près des joueurs, qui sont un petit peu plus collés à l'actualité d'aujourd'hui. Puis je te fais un espèce de parallèle parce qu'il y a deux styles. Il y a Cora qui est proche de ses joueurs, puis je trouvais que ton exemple est très bon en disant « t'as pas d'affaire à donner un coup de pied sur une poubelle pour que les joueurs t'écoutent ». Puis t'as un gars comme Gabe Kapler avec les Phillies de Philadelphie.
Okay.
Lui est arrivé, lui aussi, mi-quarantaine. C'est un gars qui a joué longtemps dans le baseball majeur.
Oui.
Mais lui, l'autre génération, c'est-à-dire statistiques avancées au maximum, plus de malbouffe dans les vestiaires. Ça,
okay.
Ça m'a vraiment frappé parce que dans le monde du sport, tu sais, quand même, la malbouffe par défaut un peu sa place, surtout dans le monde du baseball, des fois où tu bouges beaucoup, tu te déplaces beaucoup, puis il y a beaucoup de voyagements. Puis on a fait en sorte que les joueurs mettent beaucoup l'accent sur l'entraînement aussi. Donc c'est un peu la nouvelle génération. Moi, je préfère plus l'attitude de Cora que par rapport à Kapler, parce que Kapler incite aussi beaucoup les joueurs à être actifs sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas de tous les gérants.
Ouais.
Mais je pense qu'on a frappé dans le mille avec Cora. Puis même à un certain point, Dan, je pense que les Yankees aussi ont fait un bon choix avec Aaron Boone. T'sais, ça s'est peut-être pas passé comme prévu en série. On l'a critiqué pour certaines décisions. Mais je pense qu'il y a plusieurs bons jeunes gérants qui ont fait leur place. Puis surprends-toi pas, Dan, si les Jays décident d'aller dans cette direction-là aussi. On a souvent parlé d'Eric Wedge, qui est un vieux de la vieille, qui est un ami des gars qui sont là, qui pourraient être gérants. Mais je sais qu'on regarde beaucoup pour les jeunes puis ceux qui regardent le baseball d'une nouvelle façon parce qu'on a vu ce que ça a fait, entre autres, avec les Astros. Un gars comme AJ Hinch, qui est un gars de la nouvelle génération, beaucoup de succès. Donc, j'ai hâte de voir si Cora sera en mesure de battre son ancienne équipe parce que je pense que l'expérience qui a été acquise l'an passé à Houston, c'est très, très important ce qu'il est allé chercher pour justement tenter de battre une très bonne équipe. J'ai hâte de voir parce que cette série-là, c'est parti pour se terminer en 7 matchs.
On a eu des bons matchs en fin de semaine, tant dans la Nationale que dans la Ligue américaine. Et hier, les Brewers sont allés gagner à Dodger Stadium 4-0. On va écouter ce qui s'est passé hier, puis on vient ensemble après.
Jefferson, 1-2. Got him! Struck him out looking. Milwaukee wins it 4-0 as Jeffress gets into and out of trouble.
Hell yeah.
And the Brewers are up 2-1.
Tu sais, on parle beaucoup de Moneyball, puis le film qui a été fait sur l'histoire des A's d'Oakland. Pis cette année, même les A's ont surpris tout le monde avec la plus petite masse salariale. Ils ont accédé au match de Wild Card. Ils ont perdu finalement contre les Yankees. Mais les Brewers de Milwaukee, François, tu sais, Ryan Braun a été bon une couple d'années. Après ça, il a été suspendu pour dopage. Ils ont Christian Yelich qui est arrivé de Miami, qui est peut-être leur meilleur joueur. Travis Shaw qui n'avait pas de temps de jeu à Boston, qui est devenu leur troisième but. Et là, il a fallu qu'ils changent de position parce qu'on est allé chercher Moustakas qui arrivait de Kansas City en fin de saison. Mais les Brewers, sérieusement, là, tu sais, si je parle à mes chums, si tu parles à tes chums de baseball, des Brewers de Milwaukee, on va avoir de la misère à les intéresser. Je trouve qu'ils ont le prototype parfait d'une équipe Cendrillon.
Oui, certainement. Puis, tu sais, c'est pas au point de pas avoir beaucoup d'argent comme c'était avec les Expos, puis comme c'est le cas avec les Marlins puis les Rays. Mais c'est pas un club à gros budget non plus. Tu sais, on est quand même capable de signer quelques joueurs. On est dans le milieu, mais peut-être un petit peu plus du côté des pauvres. Puis, tu sais, dans l'histoire des Brewers, ils ont participé une fois à la Série mondiale, c'est en 1982. Puis les gens vont se rappeler qu'à cette époque-là, les Brewers étaient dans la Ligue américaine. Ils avaient perdu en 7 matchs contre les Cards de Saint-Louis. Puis c'est une série où les Brewers leur manquaient leur meilleur releveur, Rolly Fingers. Les gens se rappellent de sa belle moustache, mais c'était aussi un bon lanceur. Puis on dirait que les gens de Milwaukee, ça te laisse un goût amer parce que t'es allé une fois à la Série mondiale, il te manquait une victoire, puis il te manquait ton meilleur lanceur. Mais ça a été une belle histoire. Là, par la suite, il y a eu des années plus difficiles. Puis mine de rien, depuis 2011, on n'avait pas participé aux séries du côté des Brewers. C'est simplement la façon de le faire qui a été un peu surprenante. Puis je m'explique, c'est que durant la saison morte, on savait qu'il fallait s'améliorer au champ extérieur. Là, on a frappé dans le mille. On a donné le contrat à Lorenzo Cain. Oui, c'est un vétéran qui, il peut juste aller en bas de la montagne. Il peut pas monter plus haut que ça, mais c'est un très bon vétéran. Ouais. Puis l'acquisition de Christian Yelich. Mais quand est arrivée la date limite des transactions, on se disait tous, on va aller chercher des lanceurs partants. On va se trouver une façon d'être meilleur sur la butte. Puis au contraire, tu as parlé de Moustakas, on est allé chercher lui à Kansas City, Scope à Baltimore. Oui. Quelques lanceurs par-ci par-là, mais rien de majeur parce qu'on avait confiance que dans le monde des séries d'aujourd'hui, puis on voit ça depuis quelques années, c'est ce qu'on voit des Brewers depuis le début des séries, c'est-à-dire si ton lanceur partant peut te donner au minimum 3 manches, dans le meilleur des mondes, 5 à 6, comme on le levait avec Chassin hier.
Plein de releveurs après.
Et c'est incroyable. Puis je veux dire, t'as 4 releveurs de très grande qualité.
Oui.
Moi, je disais souvent, Dan, que les Brewers allaient battre les Dodgers puis que Josh Hader allait être le joueur par excellence.
Oui.
Évidemment, il a très bien lancé dans le premier match. Hier, on n'a pas eu l'utiliser beaucoup. Il va être disponible plus longtemps. Mais tu sais, les jeunes comme hier, Corbin Burns...
François, hier, il a quand même lancé la 8e.
Oui, il a lancé une manche, mais il va être disponible aujourd'hui.
Okay.
Mais on est encore très prudent avec lui. Je pense pas qu'il va lancer 3 journées de suite.
Okay,
mais aujourd'hui, je suis certain qu'il est disponible.
Okay.
C'est avec le jeune Burns, avec Jeffress, avec Soria, avec Kenny Ball. C'est un peu la recette qu'on a vue de quelques équipes dans les dernières années, comme les Indiens l'avaient fait avec Andrew Miller il y a 2 ans, lorsque se sont rendus à la Série mondiale. Écoute, je sais pas si ça va être assez. C'est sûr qu'à un moment donné, tu as un de tes partants ou de tes faux partants qui va se casser la gueule en première ou en deuxième manche.
Ouais.
C'est certain que ça va arriver.
Mais j'aimerais ça.
Jusqu'ici, c'est un bon spectacle. Puis honnêtement, tu as parlé d'équipe Cendrillon, puis je pense que c'est l'équipe Cendrillon, puis sincèrement, j'espère qu'ils vont se rendre au moins jusqu'en Série mondiale.
Oui, j'aimerais ça qu'ils gagnent, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de baseball qui aiment la variété et qui sont tannés de voir les mêmes équipes. Évidemment, les Dodgers, c'est une équipe riche, donc souvent, dans le baseball, il y a une grande disparité entre les riches et les pauvres, donc on veut que les équipes pauvres réussissent à se rendre à la Série mondiale, puis ce serait une belle histoire que celle des Brewers. Dans la série Astros-Red Sox, qui joue actuellement, on est en troisième manche, c'est 2-1 pour les Red Sox, ben, est-ce que, on dit souvent, the name of the game is pitching, dans ce sens-là, oublions les attaques, juste the name of the game is pitching, Houston est favorisé par rapport aux Red Sox.
Oh, aucun doute, parce que juste tes deux droitiers en partant avec Verlander puis Cole, je pense que t'es supérieur aux Red Sox, parce que si Chris Sale est en santé, déjà pour les Red Sox, ce serait un plus, mais tu sais, Dan, il lance pas aussi fort, puis il est pas aussi dominant qu'il l'était en début de saison avant qu'il soit blessé à l'épaule. Il est pas à 100%. David Price, on a beau avoir gagné le match qu'il a lancé, il n'y a pas une victoire en carrière en série, une moyenne au-dessus de 6. C'est une boîte à surprise. Puis, tu sais, même avec Yovaldi puis Porcello 3 et 4, c'est deux bons lanceurs, mais je pense que les Astros sont mieux nantis avec les deux droitiers, avec Keuchel puis Morton, qu'on devrait voir dans le match numéro 4. Puis à partir du moment où tu dis ça, Dan, je pense aussi que la relève des Astros est meilleure que celle des Red Sox. On dit souvent le pont pour te rendre jusqu'à Kimbrel à Boston est très difficile. Puis même Kimbrel donne des points à peu près à chacune de ses sorties. Je continue de croire que les Astros vont gagner cette série-là à l'usure parce qu'on est peut-être un peu meilleur. On n'est pas de loin meilleur. On est un peu meilleur un petit peu partout. Puis il y a l'expérience des séries aussi. Donc j'ai bien hâte de voir, mais moi je pense que je continue de croire que les Astros puis les Brewers vont s'affronter en série mondiale.
François, je voudrais pas faire un partisan du Canadien de moi-même puis partir en peur, mais j'ai une question pour toi concernant Auston Matthews. Est-ce qu'à la lumière des derniers matchs que tu viens de voir de lui, on peut mettre son nom maintenant dans la discussion du meilleur joueur de la Ligue nationale?
Ben, en fait, je pense qu'il n'y a pas de discussion pour le numéro un. Pour moi, Connor McDavid est le meilleur joueur de la Ligue, puis il va rester le meilleur joueur de la Ligue probablement pour les 10 prochaines années, juste en raison de son coup de patin. Écoute, c'est une coche au-dessus de tout le monde. Mais dans la discussion du numéro, tu sais, de placer 2 à 5, là, ça devient très intéressant. Puis je sais pas si c'est la semaine passée ou il y a 2 semaines, tu m'as posé la question. S'il y a un pôle de hockey, t'as le deuxième choix, qu'est-ce que tu fais?
Oui.
Puis je l'ai vécu, tu sais, dans un pôle cette semaine, je faisais le pôle d'un de mes amis, j'ai eu le deuxième choix. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Tu sais, où est-ce que je m'en vais? Peut-être un peu influencé parce que la saison, il y avait quelques matchs de jouer. J'ai pris Auston Matthews au numéro 2. Puis là, tu te dis, j'aurais pu prendre Tavares, j'aurais pu prendre Kucherov, j'aurais pu prendre Crosby. Il y a une tonne de candidats, mais le numéro 1, c'est McDavid. Aussitôt que quelqu'un sait qu'il repêche numéro 1, tu peux écrire le nom de McDavid, puis je pense que ça va être comme ça pour les 10 prochaines années. Évidemment, McDavid, j'ai hâte de voir parce qu'il n'est pas entouré comme Matthews l'est, mais ce que Auston Matthews est en train de faire, c'est de s'établir peut-être comme, tu sais, le nouveau numéro 2, celui qui détrône Sidney Crosby, qui a été le numéro 1 pendant très longtemps, mais je pense qu'il faut quand même une période un petit peu plus prolongée avant de confirmer le tout, mais je trouve que vraiment Matthews semble sortir de sa coquille à l'extérieur de la patinoire, sur la patinoire, puis je pense que tout ce qui se passe présentement à Toronto est très, très positif. Il va juste rester le dossier de Nylander à régler à un certain moment donné, mais pour le moment, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir quand tu as quoi une seule défaite cette année. C'est pas trop inquiétant pour Mike Babcock. Là.
Juste pour faire un parallèle avec les années, pour les plus jeunes qui n'ont pas trop suivi le hockey dans les années 80 et 90, Auston Matthews est le meilleur marqueur de la Ligue. Après 8 matchs, il a 16 points. En 92-93, après 8 matchs, Mario Lemieux avait 15 buts et 31 points.
Autre époque et autre statistique.
Il y a 3 équipes actuellement qui sont dans le top 10 de la Ligue nationale qui n'étaient pas supposées être là. Montréal, Buffalo et Ottawa. Laquelle de ces 3 équipes, sans dire peut rester dans le top 10, j'ambitionnerai pas, mais peut rêver aux séries?
Moi, je change pas de dire que dans les 3, c'est les Sabres de Buffalo. Moi, je pense que les Sabres vont... tu sais, l'arrivée de Dallin là, change quand même beaucoup de choses, même si tu sais, il faut y donner du temps, puis il faut y donner des années d'expérience, puis des matchs d'expérience pour qu'il devienne le vrai numéro un. Mais moi, je trouve que les Sabres, avec l'arrivée de Dallin, l'arrivée de Casey Middlestad, même si bon, il produira peut-être pas autant qu'on veut à sa première année, Jack Eichel en santé, les changements qu'on a fait devant le filet aussi, il reste des points d'interrogation, mais je pense que c'est l'équipe qui est la mieux nantie pour performer cette année. Peut-être qu'à à long terme, on verra, mais moi, je pense que les Sabres ont fait de très bonnes choses depuis qu'on a changé de DG. L'idée d'échanger Ryan O'Reilly, je pense que c'était la bonne. Je pense qu'on même on a fait une bonne transaction avec les Blues, avec les non seulement les choix repêchage, mais un jeune comme Tage Thompson, puis on est allé chercher des bons jeunes. Puis dans les 2 autres cas, Dan, autant les Sénateurs que le Canadien, moi, je change pas d'idée que ça va s'essouffler très rapidement en raison de la fragilité. T'sais, c'est pas long, là. Tu perds un guerrier, tu perds un joueur important. Les Sénateurs ont gagné quoi leurs 2 derniers matchs avec une défensive qui était pas loin d'une défensive de la Ligue américaine. Mais tu sais, il y a 5 et 6 matchs de jouer pour ces équipes-là. Moi, je change pas d'idée que Ottawa puis Montréal, pour moi, il y a aucun doute qu'ils feront pas les séries. Est-ce que les Sabres vont les faire? Peut-être pas, mais je pense que du groupe des 3, c'est eux qui ont la meilleure chance d'avoir le plus de points cette année.
Il y a beaucoup de partisans du Canadien à l'écoute de mon émission ce soir. Pourquoi t'es si sévère avec le Canadien en fonction des 5 matchs que tu viens de voir d'eux?
Oh non, je veux pas être sévère parce que sincèrement...
Mais tu les sors des séries sans équivoque.
Mais tu sais, je veux dire, en toute honnêteté, moi, je trouve que c'est le meilleur des scénarios pour que l'intérêt reste là. Tu sais, ça, c'est la première chose.
Exact.
Il faut que tu sais, quand tu commences l'année comme, par exemple, comme les Red Wings, tu sais, l'année est déjà finie à Détroit. Tu vois pas les séries, tu le sais, puis elle va être longue. Mais en toute honnêteté, à Montréal, c'est le même discours qu'avec les Sénateurs au niveau de la profondeur. Je veux dire, défensivement parlant, ça a aucun sens. Là. Je veux dire, t'as pas beaucoup de profondeur.
Et Weber va revenir.
Oui, ça, c'est sûr que ça va aider quand il va revenir. Ça, il n'y a aucun doute. Mais je trouve que tu es toujours à une blessure proche. Ou, je veux dire, tu as quand même là-dedans deux ou trois défenseurs qui sont des numéros 6, puis peut-être deux, peut-être trois. En attaque, on l'a déjà dit, le premier trio du Canadien, il fait très bien présentement avec Tatar, Gallagher puis Dano. Mais c'est pour moi, ça reste, si c'est pas le pire trio numéro un de la Ligue nationale, c'est un des pires. Ça veut pas dire que l'avenir peut pas être prometteur, puis on voit des belles choses des jeunes joueurs. Mais moi, je pense que le Canadien est beaucoup trop fragile, puis change pas d'idée, Dan, dans les matchs, surtout sur la route, dans les matchs qui brassent un peu, dans les longs voyages qu'on va faire, tu sais, le voyage du temps des fêtes, puis des choses comme ça. Moi, je pense que le Canadien est toujours à une blessure près de perdre 4 ou 5 matchs de suite. Fait que tant mieux si l'intérêt est là, puis que le Canadien gagne en début de saison. Mais je change pas d'idée que le manque de profondeur va faire en sorte que le Canadien finira peut-être pas 31e, mais je pense pas du tout qu'ils vont faire les séries.
Pourtant, cette semaine, j'ai entendu parler à Montréal de magie, j'ai entendu parler d'esprit d'équipe. J'ai entendu hier une question vraiment pertinente à Claude Julien après la victoire contre Détroit, un journaliste accrédité aux Canadiens qui a dit à Claude Julien à quel point il trouvait que son équipe était soudée parce qu'un joueur qui est venu défendre un autre joueur en fin de match. Jonathan Drouin dit que on a même l'extrait, François, il dit que c'est différent cette année par rapport à l'année dernière. À Montréal, ils sont partis sur le bateau puis il n'y a rien qui peut les arrêter.
Je pense que je l'ai dit depuis le début, il y a un changement, il y a une meilleure attitude. Je sais pas, c'est différent. Peut-être les nouveaux staff, les nouveaux joueurs, on veut mettre l'année passée derrière nous, mais tu vois que ça marche, c'est ce qu'on fait en ce moment, puis ça continue. Mais...
5 matchs, François, tu fais une règle de 3, puis sur 82 matchs, tout est correct?
Mais c'est sûr que le mot attitude est important, par exemple, dans ce que mentionnait Jonathan Drouin, parce que lui, quand il est arrivé l'année passée, je pense que, tu sais, le feu était déjà pogné dans la baraque, là, puis tu arrives là, puis tu sais pas trop où tu t'en vas, ou qu'est-ce qu'on voit pour toi dans l'organisation, même si on te signe à long terme. Donc, je pense que quand tu as parlé justement d'attitude, on a laissé partir quelques bonhommes qui ont fait en sorte que l'attitude a changé dans le vestiaire. Puis c'est bien comme ça. Je pense que honnêtement, ce que j'aime, Dan, c'est de voir, puis dans le match d'hier, tu sais, la réaction des joueurs, c'est extraordinaire. Je regarde un gars comme Tatar qui a l'air heureux, comme rarement on l'a vu sur la patinoire, puis les gars ont l'air du fun. Mais tu sais, c'est beau avoir du fun puis avoir une équipe plus soudée. Il y a toujours une question de talent qui va revenir, puis ça, je pense que pour cette année, ça va rattraper le Canadien probablement très rapidement.
Parfait, merci François.
Salut, bonne soirée.
Bonne soirée à toi. François Paquette, chroniqueur sportif à qui on parle chaque semaine dans l'avant-match.